Au Burkina Faso, deux ponts ont été dynamités par des groupes armés dans la nuit de vendredi 15 au samedi 16 juillet, après avoir détruit le pont de Woussé, obligeant un convoi censé ravitailler la ville de Djibo à revenir à Kongoussi. C'est celui de Naré qui a subi un second dynamitage. Ces deux attaques pourraient illustrer une nouvelle tactique selon les analystes, donc exploser des ponts pour isoler davantage la région du Sahel et particulièrement les régions de la zone des trois frontières. L'alerte a été donnée par les transporteurs stoppés donc dans leur parcours entre Kaya et Dori. La voie n'est pas praticable, a confié un transporteur à ses collègues tôt ce samedi. Le pont de Naré a été détruit encore une fois. L'ouvrage avait été attaqué donc une première fois le 30 juin dernier, mais des travaux avaient permis aux populations de continuer à emprunter cet axe routier. Selon des témoignages et des images diffusées sur les réseaux sociaux, il est désormais pratiquement impossible de rallier la capitale à Dori. L'autre pont concerné, celui donc situé dans la localité de Woussé sur l'axe Kongoussi-Bourzanga. La destruction d'une partie de cet ouvrage a obligé le convoi de ravitaillement de la ville de Djibo à faire demi-tour. Le convoi était escorté par les forces de défense et sécurité. On attendait le convoi depuis quelques jours, explique un habitant de Djibo, mais après les nombreuses alertes, le convoi n'avait pas pu démarrer. Sow Abderrahman, venu à Ouagadougou pour des raisons professionnelles, restait bloqué à Kaya dans le centre nord en tentant de regagner le nord. Nous sommes très inquiets par ce qui se passe parce que nous avons remarqué qu'actuellement la stratégie consiste à isoler de plus en plus les villes de la région du Sahel, d'autres villes aussi dans le pays. Je suis à Kaya et actuellement je me pose des questions sur comment est-ce que je vais rentrer. Les infrastructures routières deviennent des cibles privilégiées des groupes armés au Burkina Faso. Dans un rapport confidentiel adressé aux autorités de la transition, l'ONG Promédiation attirait récemment l'attention sur cette nouvelle stratégie des groupes armés consistant à exercer une pression sur les principaux axes routiers du pays. C'était prévisible que pour couper les accès, ils interdisent les gens d'accéder à ces localités-là, explique Sawadogo, membre d'une organisation de la société civile de Kongoussi. Si on arrive à sauter des ponts et on menace aussi de couper la circulation entre peut-être le Ghana, le Burkina, le Togo et le Burkina, c'est une pression. Mais il reste encore à voir à quel point. Selon la note de l'ONG, donc les axes routiers reliant Niamey et Ouagadougou, soit les principaux axes, assurant les importations et les exportations vers les pays du Golfe de Guinée, ne sont plus sécurisés. Fait troublant, en 2019 exactement à la même date, des hommes armés avaient déjà essayé de faire sauter l'ouvrage au petit matin du 18 juillet. Selon les autorités locales, donc si rien n'est fait dans l'urgence, la ville de Djibo donc sera totalement coupée de la capitale car le pont est endommagé. C'est aux environs de 3 heures du matin, donc dans la nuit du 18 au 19 juillet, que les populations de Mentao ont entendu une forte déflagration et dès le lendemain, les investigations ont permis de savoir que c'est le pont situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de province qui était visé. Mais pourquoi un acharnement sur ces régions? Cela fait plusieurs années que les groupes terroristes tentent d'isoler ces régions du reste du pays. Tout d'abord, cela touche l'élevage. Il y a un grand marché aux bestiaux, l'un des plus importants du pays qui se trouve être donc dans la ville de Djibo, dans la province de Soum. S'il est l'un des trois plus grands donc de la sous-région ouest africaine et l'isolement de cette région est donc une catastrophe humanitaire donc suite au manque d'approvisionnement en nourriture et en eau, ce qui fait que le bétail meurt, ce qui représente un énorme coût au niveau économique et cela peut également amener à la famine dans la région, ce qui veut dire que sous le chantage de la faim, les groupes terroristes peuvent faire ce qu'ils veulent des civils. Recruter les jeunes, utiliser les civils comme boucliers humains en cas d'attaque de l'armée nationale et des FDS. De plus, faire sauter donc les ponts pourrait viser également à empêcher les populations de quitter ces zones militaires et permettre que les terroristes restent confondus à la population et mettent en difficulté donc l'armée dans ses manœuvres. Outre les ponts, on assiste à une destruction systématique depuis le début de l'année des moyens de communication et aussi d'installations sensibles comme l'aérodrome de Wahigouya dans le nord, ajoutent donc certaines sources. En bref, cela fait des années que les régions du Nord sont dans le collimateur des groupes terroristes à la solde des Occidentaux pour pouvoir étouffer le Burkina Faso et le faire plier. Pour l'instant, les autorités burkinabées perdent énormément de temps à se tourner vers des partenaires sérieux, donc qui sont prêts à soutenir le pays dans la lutte contre le terrorisme. Des partenaires comme le Mali, certes, mais également comme l'Iran ou la Russie. La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun se précise. Le service de presse et veille donc de l'Élysée, en liaison avec l'association de la presse présidentielle, assure que les dispositions pour le logement et le transport des journalistes ont déjà été prises. De même, plusieurs sources font savoir que des tractations sont en cours pour l'élaboration de l'agenda de cette visite, et même que certains rendez-vous sont déjà actés. Le premier rendez-vous donc concerne bien sûr l'entretien attendu entre Emmanuel Macron et son homologue camerounais Paul Biya. Selon la presse panafricaine, les deux hommes pourront discuter des nouveaux enjeux sécuritaires dans le golfe de Guinée, de l'influence de Moscou, de la crise anglophone, de la menace de Boko Haram dans le nord du pays et des questions politiques. Emmanuel Macron est aussi censé rencontrer certains des jeunes Camerounais qui ont assisté au sommet Afrique-France de Montpellier d'octobre 2021 lors d'une séquence consacrée à la société civile. Cette information est confirmée par Paul-Joël Kamchang, le secrétaire technique du Conseil, donc pour le suivi des recommandations du sommet de Montpellier. Une source du groupement interpatronal du Cameroun laisse entendre que tout est prêt pour une rencontre entre Emmanuel Macron et les patrons camerounais. Les contacts entre le patronat et Paris sont d'ailleurs très avancés. Le 8 juin dernier, donc Célestin Tawamba écrit au président français qui présidait alors le Conseil européen. Le président du JICAM sollicitait donc la tenue d'un sommet Union européenne-Union africaine élargi au secteur privé et à la société civile dans le but d'examiner la conjoncture économique internationale. Comme réponse à cette lettre, le 23 juin dernier, Tawamba a reçu donc Marie Adouard, la conseillère Afrique et diaspora d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, plusieurs programmes sur cette visite en circulation sur les réseaux sociaux laissent entendre qu'il y aura des tête-à-tête entre Emmanuel Macron et quelques opposants camerounais, à l'instar de Maurice Kamto. Contacté, Luce Delmotte, l'attachée de presse de l'ambassade de France au Cameroun, ne confirme rien. Elle indique qu'il faut attendre que cette visite soit officialisée par l'Élysée et le palais d'Etoundi, donc qui doivent donc par ailleurs en déterminer le programme. Le mouvement réformateur accuse Emmanuel Macron de venir perpétuer l'héritage colonial au Cameroun. Cette formation politique croit connaître les grandes lignes de l'agenda du chef de l'État français annoncé en visite au Cameroun le 26 juillet prochain. Depuis l'annonce d'une visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun, l'élite intellectuelle et politique revitalise d'arguments pour exprimer son ressentiment de l'arrivée de l'homme d'État dont l'agenda n'est pas encore rendu officiel ni par l'Élysée et encore moins par Etoundi. Cependant, le parti politique d'opposition Mouvement Réformateur croit connaître des grandes lignes de cette visite d'Emmanuel Macron et indique qu'elle est essentiellement orientée vers la défense des intérêts français au Cameroun, mais surtout sur les batailles de succession que se livrent certains caciques dans le sérail pour prendre la place de Paul Biya à la tête de l'État. L'heure est grave, Emmanuel Macron ne vient pas à Yaoundé en villégiature, mis à part le passage express et sans considération de 6 heures de François Hollande en juillet 2015. 23 ans après la visite du président Chirac en juillet 1999, Emmanuel Macron vient au Cameroun pour perpétuer l'héritage colonial au mépris des aspirations démocratiques du peuple camerounais, a commenté le président du MR dans un communiqué rendu public ce mardi 19 juillet. Il invite avant toute chose le président français à solder le passif historique qui existe entre le Cameroun et la France et à reconnaître les crimes et massacres commis pendant la guerre d'indépendance au Cameroun, tout en le mettant en garde contre son éventuelle, donc une implication qui serait jugée pernicieuse dans la transition qui s'annonce à la tête du pays. La panafricaniste Nathalie Yambe donc rappelle qu'en décembre 2019, le président français Emmanuel Macron avait requis son expulsion de la Côte d'Ivoire avant qu'il n'y mette le pied. Ironiquement, elle attend de voir comment il lui sera demandé de quitter le Cameroun avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron, comme ce fut le cas en 2019 en Côte d'Ivoire. En décembre 2019, Macron avait exigé que je sois expulsé de Côte d'Ivoire avant son arrivée. Il paraît qu'il veut tenir, donc il veut venir au Cameroun, qui, rappelons-le, a signé en avril un accord de coopération militaire avec la Russie. Je suis au pays, je vais voir comment il va me faire expulser cette fois-ci, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. La France considère toujours le continent africain comme sa propriété. Nous voulons sortir du franc CFA. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes, etc., avait-elle déclaré. Ils l'ont mis dans l'avion pour Zurich, avec un changement à Paris, elle a découvert sa destination à l'aéroport, on a pu lui parler brièvement, on lui reproche une activité incompatible avec l'intérêt national, nous a-t-elle dit, avait donc rapporté Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale et chef de file du parti leader au sein duquel Nathalie Yambe militait. Après l'Iran et l'Argentine, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte pourraient rejoindre le bloc des pays émergents alors que l'Afrique est confrontée à l'hostilité occidentale. Quels États africains seraient le plus à même de rejoindre les BRICS? Du conflit en Ukraine en passant par la crise gazière et alimentaire jusqu'à l'explosion des prix des produits de première nécessité et l'effondrement financier, l'Afrique n'a fait que subir les répercussions des manœuvres des puissances occidentales ces derniers mois. L'Union africaine se concentre sur les soucis immédiats comme la pénurie de céréales sans grand succès, mais il est indéniable que de plus en plus d'États africains s'inscrivent dans l'édification du nouvel ordre économique mondial. Fin juin, les sommets des BRICS, donc comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et du groupe des 7, donc le G7, se sont succédés. Des pays africains étaient invités à ces rencontres. Certains, comme l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Égypte, ont assisté aux deux sommets. Et ce n'est pas un hasard. Le président de la coordination de l'Afrique de demain, Roland Portella, estime que l'Afrique est au cœur de toutes les décisions économiques aujourd'hui, tout simplement parce qu'on y trouve les marchés de demain. Près de trois semaines plus tard, lequel donc de ces sommets, des BRICS et du G7, a-t-il trouvé le plus d'écho en Afrique et pourquoi? Les BRICS sont plus importants que le G7. Le conférencier français, donc Aberkane, estime que le dernier sommet des BRICS a été trop peu couvert par les médias. Et pourtant, martèle-t-il, pour la géopolitique mondiale, les BRICS sont beaucoup plus importants que le G7. Ils représentent un pivot géopolitique mondial. Le 21e siècle va être plus déterminé par les BRICS que par le G7. Dans les chiffres, les BRICS représentent 42% de la population et 53% de la croissance économique mondiale. Et si l'apport financier des économies des BRICS, à l'exception de la Chine, est relativement bas, le bloc est créateur de richesses et la production des BRICS domine de loin celle des puissances occidentales réunies. Autant de facteurs qui expliquent pourquoi de plus en plus de pays émergents viennent toquer à la porte de l'organisation née en 2009. La présidente du forum, comprendre la commission, des BRICS pour Nima Anand a dévoilé au quotidien russe, donc Izvestia, que trois pays rejoindraient les BRICS très bientôt. Il s'agit, donc, selon la responsable, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Anand précise que l'Arabie Saoudite est sérieusement engagée dans le processus. L'Égypte, elle, donc, étudie la possibilité depuis plusieurs années, tout comme la Turquie, de se joindre à l'organisation. Les trois pays semblent donc en passe de suivre l'Iran et l'Argentine, dont les candidatures ont déjà été formellement soumises. Un enjeu américain d'envergure alors que les États-Unis profitent de la chute de l'euro, donc pour faire flotter les taux de change au bénéfice du dollar. La dévaluation du brut, notamment via l'augmentation de production, devient ainsi une priorité pour Joe Biden qui ne s'attendait clairement pas à se faire refouler par plusieurs dirigeants dans le monde. La Chine, qui présidait le dernier sommet des BRICS, a quant à elle trouvé Joe Biden maladroit. En effet, le président américain a déclaré « Nous ne partirons pas du Moyen-Orient pour laisser un vide que la Russie, la Chine et l'Iran combleront ». Une déclaration à laquelle le porte-parole de la diplomatie chinoise a répondu « Les peuples du Moyen-Orient sont les maîtres de la région et le Moyen-Orient n'est pas l'arrière-cour de quelqu'un et encore moins un soi-disant vide ». Un contexte essentiel pour les perspectives d'alignement géopolitique en Afrique. D'abord, le rapprochement multipartite des pays arabes, de la Turquie, des BRICS et des alliés africains donc pourrait dépendre donc de plusieurs facteurs. L'apport d'aide financière, la coopération diplomatique et commerciale ainsi que le respect simplement de la souveraineté des États africains sont des facteurs dont les BRICS sont les préposés. Un concept historique qui date des indépendances africaines. Deuxièmement, l'hésitation de nombreuses puissances émergentes à rejoindre les BRICS dénote surtout la crainte de se retrouver coincées au milieu d'un bras de fer entre la Chine, l'Inde et la Russie. Or, comme l'explique Aberkan, la Russie peut devenir un médiateur entre la Chine et l'Inde et pourra demain encourager les BRICS à créer une ONU 2.0. Et le conférencier de poursuivre, pareil demain si les BRICS donc devaient décider de créer un panier de devises. Et pour l'instant, la Chine envisage d'être le FMI numéro 2, ce qu'elle a déjà en Afrique où elle détient tellement de dettes américaines qu'elle peut se prévaloir d'être un deuxième FMI. Il faudrait donc rappeler la création depuis 2014 de la nouvelle banque de développement par les BRICS. Cette institution financière avait d'ailleurs en mai contribué à hauteur de plus de 30 milliards de dollars en devises à l'accélération de projets dans les pays membres, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Et se rajoute donc à la China Exim Bank dont l'équivalent africain Afrexim Bank prend de l'importance afin de constituer un semblant de banque mondiale bis. L'infrastructure financière est donc déjà en place et la Chine, qui est devenue le partenaire plus influent de la majorité des États africains ces dernières années, a également une image relativement positive en Afrique, essentiellement lorsqu'on compare la Chine et ses alliés aux États-Unis et l'Europe. Seule question qui reste donc en suspens, si l'Égypte franchit le pas et en considérant que la Chine et la Russie aient aussi des arguments convaincants pour intégrer l'Éthiopie et l'Algérie, rivaux géopolitiques de l'Égypte, l'alignement sur les BRICS serait-il en réalité le vrai enjeu diplomatique et économique de l'Afrique dans un futur proche ?
Le Togo accepte d'aider le Mali à régler son différend avec Abidjan autour des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Ces soldats, arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de la capitale malienne, sont accusés par les autorités de la transition d'être des mercenaires. La Côte d'Ivoire demande leur libération sans délai et affirme que leur présence dans le cadre d'opérations de soutien à la MINUSMA était bien connue des autorités maliennes. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Adoussé, était ce lundi 18 juillet à Bamako. Il a été reçu par le président de la transition malienne. Selon le communiqué conjoint publié après la rencontre, le colonel Assimi Goïta s'est réjoui de l'accompagnement fraternel et sans relâche du Togo et a salué l'engagement personnel du président Faure Gnassingbé pour la réussite de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Le président de la transition malienne s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation. Après la rencontre, Alassane Ouattara a lui aussi remercié son homologue togolais, représenté par Robert Dussé, pour les initiatives prises en faveur de la paix et de la sécurité en vue de trouver une solution rapide à la crise entre les deux capitales. L'État sénégalais vient de mobiliser plus de 65 milliards de FCFA pour la transformation numérique de l'économie du pays. Selon le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara, cette enveloppe consacre plus de 13 milliards de FCFA au développement des start-up. Diatara a également souligné lors d'une sortie médiatique que l'offre de formation dans les métiers du numérique s'est considérablement diversifiée, touchant quasiment tous les métiers du numérique jusqu'aux qualifications nouvelles et stratégiques du big data, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. L'ambition du Sénégal est de mobiliser 100 milliards de FCFA pour la jeunesse sénégalaise qui évolue dans l'innovation et qui porte le développement et l'émergence du Sénégal, a précisé le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications. Le vendredi 15 juillet, la Direction générale de l'artisanat et du développement des services a procédé au lancement d'une grande exposition-vente à Libreville, dénommée le mois de la consommation des produits locaux. Un événement qui a pour objectif de faire la promotion du « Made in Gabon » auprès des populations. Lancé par le ministre du Commerce, Yves Fernand Manfoubi, cette grande foire, qui se tiendra du 15 juillet au 15 août prochain, sera l'occasion d'inciter le plus grand nombre de personnes à découvrir des produits locaux. À terme, cette foire exposition-vente a pour objectif de valoriser le savoir-faire des artisans gabonais, mais aussi célébrer leur créativité afin de redynamiser ce secteur d'activité. Lors de son intervention, le membre du gouvernement, tout en rassurant les artisans sur le soutien des plus hautes autorités, a rappelé les trois défis auxquels le pays doit faire face dans ce secteur. Premièrement, parvenir à la transformation des entreprises artisanales et réussir la relance du secteur. Deuxièmement, parvenir à améliorer la formation des artisans et des travailleurs indépendants. Troisièmement, parvenir à rapprocher les financements au plus près des besoins des artisans, a-t-il indiqué. Plusieurs dizaines de camions transportant du nitrate d'ammonium, un produit hautement explosif, sont bloqués à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Selon les informations, ces produits chimiques sont commandés par une compagnie minière évoluant dans la région de la Haute-Guinée. Mais un différend oppose la société Xlog qui fournit ces explosifs et son transitaire habituel, Djiba Brété. Ce dernier réclame à son partenaire la somme de 264 millions GNF, d'où l'impasse. Le préfet de Koundara a ordonné la sortie des camions sur le territoire guinéen, compte tenu de la dangerosité des produits qu'ils transportent, en attendant qu'une solution soit trouvée entre les deux partenaires. Le préfet de Koundara, le colonel Abdourahmane Keïta, a expliqué que le blocage des camions n'implique aucunement les autorités douanières et militaires. Il indique avoir ordonné de mettre les camions hors de la Guinée, compte tenu de la toxicité des produits qu'ils transportent. Ce n'est ni la gendarmerie ni la douane qui bloquent les camions. L'incompréhension, c'est entre les deux partenaires, la société qui avait l'habitude d'importer et son partenaire. Comme les produits sont dangereux, j'ai ordonné à ce que les camions soient dans la zone du Sénégal jusqu'à ce que les parties s'entendent. Donc, la douane et la gendarmerie sont loin de cette affaire. C'est ce qui se passe. Sinon, il n'y a pas d'autre problème, précise le préfet de Koundara.